Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Auteur de nombreux ouvrages, Éric Monchon-Rigaud est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Nous avions eu le plaisir de le recevoir il y a 2 ans à l'occasion de la parution de la biographie qu'il avait consacrée à Bonnie Caslan. Il revient nous voir aujourd'hui pour nous présenter le journal d'Alfred de Gramont et nous proposer une visite dans un univers qui est un univers comparable à celui qu'a dû connaître Marcel Proust, et l'univers des cercles orléanistes de la fin du XIXe siècle. Éric Monchon-Rigaud, bonjour.
Bonjour, David Gaillardon.
La première question que je vous poserai, c'est peut-être de nous préciser ou de resituer pour nous cette généalogie de la famille de Gramont.
Alfred de Gramont, qui est né en 1856 et qui est mort en 1915 et qui écrit son journal de 1894 à sa mort, n'est qu'un cadet. Il est fils de duc et frère de duc. Il n'a pas marqué la généalogie familiale, d'autant moins qu'il est mort sans descendance. Son fils meurt à l'âge de 20 ans, laissant un père broyé par la douleur, et sa fille se mariera, divorcera, se remariera après la mort de son père et n'aura pas de descendance. Alfred de Gramont est le fils du 10e duc de Gramont, qui est connu dans l'histoire du Second Empire par sa carrière diplomatique. Il a eu une longue carrière d'ambassadeur dans l'Allemagne en train de s'unifier, notamment en Hesse-Cassel. Puis il a eu des ambassades importantes en Italie, à Turin, où est né Alfred dans la légation de France, et à Rome, à un moment très important, puisque c'est celle de l'unification italienne. Et l'on sait quelle attention Napoléon III portait à l'unification italienne et à l'Italie. Et il a terminé sa carrière d'ambassadeur à Vienne, où il était très heureux. Alfred de Gramont, évoquant son enfance, il fait d'ailleurs allusion à plusieurs reprises. Et il se trouve qu'au printemps 1866, il est nommé par Napoléon III ministre des Affaires étrangères, ce qui lui vaudra d'être le ministre des Affaires étrangères déclenchant la déclaration de guerre en 1870, et il sera d'ailleurs rendu responsable de façon un peu injuste de cette guerre, et il passera d'ailleurs les dernières années de sa vie, il meurt en 1874, à essayer de se justifier. Cette famille de Gramont a un statut particulier en France, à la Belle Époque, car elle semble cumuler toutes les excellences. Les hommes sortent de Polytechnique ou de Saint-Cyr, ce qui est le cas d'Alfred de Gramont, s'inscrivant dans la tradition militaire de cette famille qui compte 3 maréchaux. Ils font de beaux mariages. Le plus célèbre est celui du frère aîné d'Alfred, Agénor, le 11e duc de Gramont, qui, après avoir épousé une princesse de Beauvau, qui meurt en donnant naissance, au bout d'un an de mariage, à la future Élisabeth de Clermont-Tonnerre, Élisabeth de Gramont, qui épouse Philibert de Clermont-Tonnerre et qui est célèbre dans l'entre-deux-guerres pour son anticonformisme et qui a laissé 4 volumes de mémoires fort intéressants. Il se remarie quelques années plus tard avec Marguerite de Rothschild, la sœur de la princesse de Wagram, qui évidemment apporte une dot absolument colossale, qui permet au duc de Gramont, d'une part, d'acquérir un hôtel particulier qui se trouvait à l'angle de la rue Quentin-Bauchard, qui avant 1914 s'appelait encore la rue Chaillot, et des Champs-Élysées, et qui deviendra, si l'on en croit les propos d'Élisabeth de Gramont, qui a été élevée par sa belle-mère, Marguerite de Rothschild. Et cet hôtel était une véritable usine à réception. Surtout, il achète à la fin des années 1890 un domaine absolument extraordinaire qui est le domaine de Mortefontaine, en face de l'abbaye de Chalice, à 40 km au nord de Paris. Si la famille de Gramont est connu pour sa présence dans les salons, sa présence dans le monde des courses. Le grand-père d'Alfred de Gramont est, avec quelques autres, le fondateur du Jockey Club. Il était passionné d'équitation. Cette famille est aussi brillante intellectuellement, puisque Armand, le duc de Guiche de la Belle Époque, le titre de duc de Guiche est le titre d'attente chez les ducs de Gramont. Et donc Armand, duc de Guiche, fils de Marguerite de Rothschild et du frère d'Alfred de Gramont, est connu, entre autres, pour être un brillant physicien, spécialiste d'optique. Il est le fondateur, dans l'entre-deux-guerres, d'un institut d'optique. Il est en quelque sorte le père de l'optique appliquée. Il travaillera beaucoup pour l'armement français, ce qui lui vaudra en 1931 d'entrer dans votre maison, à l'Académie des sciences, où il retrouve l'un de ses cousins, Arnaud de Gramont, qui l'avait précédé, qui était également physicien, et qui l'avait précédé dans cette même académie en 1913.
Alors merci d'avoir précisé pour nous cette galaxie Gramont. Revenons-en donc à cet Alfred de Gramont. Comment avez-vous découvert ce journal, qui est inédit, il faut le rappeler, et que vous avez dû annoter et surtout ensuite couper? Il a fallu procéder à des choix, vous allez nous expliquer ce qui a guidé justement ce travail. D'où vient ce journal? Comment se fait-il qu'il ne soit publié qu'aujourd'hui? À qui appartient-il?
Alors pour vous répondre, il faut que je donne peut-être quelques précisions rapides sur Alfred de Gramont. Alfred de Gramont est très différent de ses deux frères aînés. Il entretient d'ailleurs avec eux des relations qui sont houleuses et parfois teintées clairement de jalousie. On le sent dans
l'écriture. Il y a beaucoup d'ironie dans le journal. Hein.
Oui.
Mon frère l'espère, généralement, ça commence toujours
voilà.
mal.
Voilà. Il se trouve que, à la différence de ses deux frères, il n'a pas fait un mariage prestigieux. Il a épousé une femme de la bourgeoisie. Le mariage est heureux. Tout laisse penser, même si j'ai réussi, malgré mes efforts, à trouver assez peu d'informations, que son épouse, Hélène Sabatier, avait des moyens. Enfin, ça n'avait rien à voir ni avec Marguerite de Rothschild, ni avec la fille du dernier duc de Conegliano. Je sais, parce qu'il le dit dans son journal, qu'après la mort de son fils en 1904, il remet à son frère aîné un certain nombre de souvenirs Gramont, puisque de toute façon, quel que soit l'avenir de sa fille, et il ne sait pas à ce moment-là qu'elle n'aura pas de descendance, il n'y aura pas de descendance Gramont. Première chose. Deuxième chose, il meurt en 1915 et il partageait durant sa vie son temps entre un petit hôtel particulier qui se trouvait à Paris rue Magellan, donc tout près des Champs-Élysées, et d'autre part une propriété, le château de Magnanville, qu'il avait racheté en 1892 et dont j'ai pu retrouver la date de vente qui est 1926. Et 1926, c'est le moment peu de temps avant la mort de sa femme. Et je pense qu'à ce moment-là, doivent être vendus presque concomitamment à la fois l'hôtel particulier et cette maison qui se trouvait près de Mantes-la-Jolie, qui était un petit château entouré d'un parc de 70 hectares, et sa fille qui se retire de la famille en quelque sorte, et qui meurt au début des années 70, ne laissera pas de souvenirs à la famille de Gramont. Mais il se trouve qu'au moment où ces deux maisons ont été vendues, je pense que les archives, en tout cas le contenu de son bureau, ont été remises à son frère et à Vallière. Et j'en veux pour preuve que lorsque la famille de Gramont se sépare de Vallière en 1981, elle va très intelligemment remettre aux archives nationales trois fonds très importants. Et il se trouve que dans le fonds Gramont, j'ai retrouvé deux sous-cotes d'Alfred de Gramont dans laquelle se trouve une correspondance, et notamment sa correspondance avec le duc d'Orléans, qui est évoquée ici dans le journal. Et il se trouve que devait se trouver également à Vallière les 12 volumes de ce journal. Pour des raisons que j'ignore, ces 12 volumes ne sont pas partis au moment où a été vidée la maison aux Archives nationales. Tout simplement parce que ce sont des cahiers reliés qui devaient être rangés dans la bibliothèque et non pas dans les archives. La bibliothèque de Vallière, elle, a été vendue.
Qui inspirera Dumas.
Le château a été vidé. Et ces manuscrits étaient invendables. Voilà. Ils ont été entreposés dans des malles avec d'autres documents, en particulier des photos. Et il se trouve qu'il y a quelques années, triant les photos avec l'actuelle duchesse de Gramont, nous avons retrouvé d'abord 11 volumes. Le 12e a été retrouvé in extremis un an avant l'achèvement de mon travail. Et c'est comme ça que ce journal est passé maintenant à la postérité.
Alors Éric Mancion-Rigaud, nous marquons une pause, si vous le voulez bien, avant de feuilleter avec vous ce journal inédit.
Dans l'émission Un jour dans l'histoire, le grand historien moderniste Lucien Belli revient sur l'art de la paix en Europe ou les origines de la diplomatie moderne. Une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Nous retrouvons Éric Mancion-Rigaud, historien, qui était venu nous voir il y a 2 ans pour nous présenter sa biographie de Bonnie de Caslan et qui revient aujourd'hui nous présenter L'Ami du Prince, le journal inédit d'Alfred de Gramont, qu'il vient de publier chez Fayard. Alors Éric Mancion-Rigaud, vous nous avez présenté cette généalogie prodigieuse qui est celle de la famille de Gramont. Après cette visite à cet arbre de Jessé complètement extraordinaire, qui cultive toutes les excellences jusqu'à aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet, si je peux dire, et découvrons un peu cette atmosphère qui est celle qui préside à ce journal. Un journal qui est tenu de 1892 à 1915 et qui permet de fréquenter ou de découvrir et de côtoyer des noms qu'on connaît lorsqu'on a lu la recherche, comme vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on est familier du monde de Proust, mais qu'on découvre cette fois-ci d'une manière tout à fait différente, puisque ce sont des gens qui sont de chair et de sang, qui sont extrêmement engagés socialement, politiquement, présents dans la vie des arts, dans la vie mondaine. Ici, nous avons affaire à quelqu'un qui est un proche du duc d'Orléans. Peut-être peut-on préciser un peu cette galaxie, justement.
Alors, Alfred de Gramont est le prototype des aristocrates, de la haute aristocratie parisienne qui va en effet inspirer Proust. Et c'est en cela que son journal m'intéressait. Mais c'est aussi parce que depuis, de livre en livre, celui-ci est le 10e, j'essaye d'analyser cette culture nobiliaire, la persistance de cette culture nobiliaire dans la France post-révolutionnaire. Et je dois dire qu'avec Alfred de Gramont, j'avais un personnage extraordinaire qui, par ses réflexes, par ses jugements, par ses comportements, par sa culture, par son éducation, est vraiment le prototype du membre du Jockey Club, qui est presque une maison de famille pour lui et qu'il fréquente assidûment. Alors, on retrouve chez lui tous les traits fondamentaux des aristocrates de son époque, que ça soit son sens des hiérarchies, sa conscience lignagère et puis sa conception du mariage. C'est l'intérêt sociologique du journal et c'est également tout ce qui en fait sa saveur puisqu'on a en quelque sorte livré dans ce journal une sorte d'histoire mondaine toute nue et sans retenue avec un goût de l'écriture qui rassemble tout ce que l'habitude des salons peut donner comme réflexe, c'est-à-dire la politesse méchante, le goût du bon mot qui fait mouche et que l'on retrouve fréquemment dans les textes autobiographiques, parfois une plume trempée dans le vitriol dans la lignée de La Bruyère et de Saint-Simon.
Il sait être très incisif. Il y a des passages fort drôles. Il a beaucoup d'esprit.
Il a beaucoup d'esprit. Et on a vraiment cette habitude du salon, cette habitude de la conversation qui se veut brillante, mais qui est servie par une réelle lucidité.
On est frappé par la lucidité d'Alfred de Gramont. Je me permets, si vous voulez bien, de lire ce passage parce que je trouve qu'il corrobore exactement ce que vous venez de dire. On est en 1907 et Alfred de Gramont écrit « Il faudra sous peine de disparaître que les futures jeunes générations travaillent et puissent se tirer d'affaires toutes seules. Il est triste de constater que dans notre société, les jeunes gens ou bien ne font rien ou bien sont incapables de faire quoi que ce soit. À mon avis, cela tient à 4 choses principales. Premièrement, depuis des générations, notre société se tient en dehors de tout, a perdu contact avec les aspirations du pays et l'orgueil et la vanité aidant est devenue non pas inintelligente mais inapte à toute espèce de travail productif et utile. Deuxièmement, les stupides préjugés de notre stupide société ne lui ont pas permis jusqu'à présent d'embrasser d'autres carrières que l'armée ou la diplomatie ou l'agriculture, etc. Donc effectivement, on est à ce moment, et la Première Guerre mondiale sera sans doute le coup de hache qui sera fatal à cette société, on est à ce moment où cette oisiveté brillante et mondaine que décrit Proust vit son crépuscule.
Tout à fait, tout à fait. Et le journal s'achève justement au début de l'année 1915, donc s'achève des pages très émouvantes d'ailleurs sur la fin de l'année 1914, c'est-à-dire les 6 premiers mois de la guerre. Alfred meurt au printemps et il écrit assez peu, enfin les dernières pages datent de l'hiver, de janvier et février. Et c'est donc le récit de l'écroulement qui est évoqué à la fin du journal. Alors Alfred de Gramont est l'ami du prince. Ce prince, eh bien c'est le duc d'Orléans, le fils du comte de Paris, l'arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe, et c'est lui qui devient le prétendant à la mort de son père en 1892 et qui le restera jusqu'en 1926. Alfred de Gramont est membre de son service d'honneur et le restera jusqu'à sa mort en 1915 et sera son confident, son ami sans doute le plus proche, avec Honoré de Luynes, le duc de Luynes, qui meurt en 1924. Et le journal est donc un tableau de la famille royale dans les années qui précèdent la Grande Guerre. On voit ce duc d'Orléans se promener à travers l'Europe. C'est vraiment un tableau de l'exil, de cette famille d'Orléans qui est frappée par la loi d'exil depuis 1886 et qui a banni donc les deux prétendants, Orléans et Napoléon. Et qui partage son temps entre l'Angleterre, où est installée la famille d'Orléans depuis 1848, Palerme, la Sicile, où il a hérité des biens du duc d'Aumale, le reste de l'Italie aussi, puisque sa sœur est mariée au duc d'Aoste, l'Autriche, où il aime se rendre fréquemment, d'autant plus qu'il va épouser une archiduchesse d'Autriche, l'archiduchesse Marie Dorothée, qui est la fille du palatin de Hongrie. Et d'autre part, il est très fréquemment aussi à Bruxelles, qui est le lieu où se retrouvent tous les exilés d'Europe dans les années qui précèdent la Grande Guerre, et où il s'installera finalement à la veille de la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres. Le duc d'Orléans, en effet, n'a pas eu de descendance de son mariage malheureux avec cette archiduchesse Marie Dorothée, et la prétendance en 1926 passe à son cousin, le duc de Guise, qui était le fils du duc de Chartres, frère du comte de Paris. Alors, c'est donc un tableau de cette famille royale exilée à une époque qui paraît très lointaine maintenant, où la France républicaine est très isolée en Europe et où cette Europe monarchique et cette Europe des princes est encore une réalité. Et on le voit très bien par toute l'attention portée là aussi, pas seulement chez les Gramont, mais aussi dans la famille royale, à toutes les alliances. En particulier, le journal s'ouvre sur la préparation du mariage de la princesse Hélène avec le duc d'Aoste. Cette princesse Hélène qui avait failli épouser l'archiduc François Ferdinand, pour laquelle on avait pensé peut-être une alliance avec un grand-duc russe et qui surtout avait été presque fiancée au fils aîné du prince de Galles. Il y a également évoqué, je dirais, le fonctionnement des intendances auprès du duc d'Orléans à une époque où la société de cour n'est pas encore très lointaine et où l'aristocratie française regarde encore d'un œil très attentif, parfois jaloux, la proximité des familles de l'aristocratie française à la famille royale. Et puis, d'autre part, et surtout, et c'est là l'intérêt politique du journal, il y a un tableau souvent extrêmement sévère du parti royaliste à un moment crucial dans l'histoire du royalisme français, puisque c'est à la fois le moment où le royalisme est encore suffisamment important pour susciter la crainte des républicains, d'où cette surveillance extrême portée au déplacement du duc d'Orléans et au contrôle de son courrier, comme la fonction principale d'Alfred de Gramont lorsqu'il est au service du prince, c'est d'écrire des lettres, d'être en quelque sorte son secrétaire, Il y a beaucoup de remarques sur le contrôle du courrier du prince. Mais en même temps, on assiste au déclin du parti royaliste en raison de ces divisions. Il y a un tableau vraiment très, très sévère que fait Alfred de Gramont sur l'incapacité politique de l'aristocratie française et des royalistes de s'organiser de façon vraiment efficace.
Il parle d'indiscipline, pardon de vous couper la parole, mais il y a effectivement un passage qui reprend cela tout à fait et qui mérite d'être lu à mon avis. On est en 1909 et Alfred de Gramont, reprenant ce que vous disiez, écrit « Cela tient à ce que le parti royaliste a toujours été et est toujours très indiscipliné, n'obéissant à aucun mot d'ordre, renfermant une collection d'énergumènes qui non seulement n'obéissent pas, mais même se cachent du duc d'Orléans, qu'ils compromettent malgré lui et sans lui. » Et il prend pour exemple l'Action française, pour laquelle il n'a pas une sympathie particulière, et dont il montre, et l'expression est de moi, je parle sous votre contrôle, qu'elle est plus royaliste que le roi.
Alors le journal est extrêmement intéressant puisqu'il évoque la genèse de l'Action française qui a été très bien étudiée pour l'entre-deux-guerres et notamment pour toute la période qui précède et suit sa condamnation en 1926 par le Vatican. Mais en revanche, sur les débuts de l'Action française et sur le processus de captation du bureau politique du prince par le mouvement de Charles Maurras, on avait, me semble-t-il, jusqu'à présent, peu d'études, faute d'informations. Et là, le journal d'Alfred de Gramont fournit une source extrêmement précieuse. Cette captation se fait sur 3 ans, entre 1908 et 1911. En 1908, le mouvement de Charles Maurras est devenu important, le journal est devenu un quotidien et on assiste, par l'entremise notamment d'un personnage qui mobilise toutes les capacités d'irritation d'Alfred de Gramont, qui est le comte de l'Ursalus. La famille de l'Ursalus est très connue, c'est une famille très ancienne du sud-ouest, propriétaire jusqu'à une date récente de Château Yquem, et qui est le comte de l'Ursalus et le chef du parti royaliste dans le sud-ouest de la France. Il est totalement rallié à Maurras et il sera l'un des artisans de l'abandon, en quelque sorte, du bureau politique du prince à l'Action française, ce qui est acquis en 1911 et ce qui demeurera dans l'entre-deux-guerres, un peu moins à partir de 1926. Et il faudra attendre feu le comte de Paris qui, dans les années qui précèdent la guerre, décidera véritablement de sortir le royalisme, de dissocier le royalisme de l'Action française. Alors Alfred de Gramont est très hostile à l'Action française pour plusieurs raisons, me semble-t-il. La première, c'est que par tempérament, c'est un homme qui est modéré, qui est calme, qui est très légaliste et qui supporte mal la violence verbale de l'Action française. Nous ne sommes plus habitués maintenant à une presse aussi violente qu'elle l'était à la Belle Époque et encore dans l'entre-deux-guerres, avec des attaques ad hominem extrêmement virulentes. Mais de ce point de vue-là, l'Action française est en tête de la violence des attaques et également une violence physique, puisque l'Action française procède à des coups de force,
à des actions
ponctuées d'insultes, de bousculades. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne supporte pas. Ne supporte pas, bien sûr, toutes les attaques contre les personnes royales. Et le drame de l'assassinat du roi de Serbie et de son épouse dans des conditions dramatiques en 1903, qui glace d'horreur toutes les cours européennes, suscite bien sûr sa révolte, mais un acte de violence contre le président Loubet suscite de sa part une même réaction d'hostilité à l'égard de tout acte qui va à l'encontre de la légalité et du pouvoir établi. En cela, c'est vraiment quelqu'un de profondément légaliste. D'autre part, c'est quelqu'un qui est attaché à une conception orléaniste de la monarchie, c'est-à-dire il regarde cette monarchie traditionnelle avec une certaine distance, et je crois qu'il est profondément orléaniste dans l'âme, attaché à une monarchie parlementaire aux antipodes de la conception qu'a l'Action française de la monarchie. Et c'est ce qui explique ces incessantes mises en garde lancées au duc d'Orléans, lancées au prince, contre l'Action française, sans d'ailleurs qu'il soit entendu.
Oui, c'est ce que j'allais vous
demander. Et c'est ce qui explique, à la fin du journal, à partir de 1911, Alfred de Gramont est malade, il est vraiment meurtri la mort de son fils et par l'échec du mariage de sa fille. Et il est profondément désabusé par son prince, à l'égard duquel il a un discours qui me paraît extrêmement juste d'un point de vue historique. Il a pour lui beaucoup de tendresse. Il sait mieux quiconque la difficulté de la vie d'un exilé. Si la loi de 1886, la loi de bannissement, a été votée, c'était bien pour déstabiliser la famille de France, la stabiliser d'un point de vue patrimonial, mais aussi d'un point de vue psychologique. Je dois dire que ça paraît réussi. Quand on lit le journal d'Alfred de Gramont, le duc d'Orléans, qui en plus de ça a une vie sentimentale et personnelle malheureuse, et la débandade financière de la famille d'Orléans, dont le XXe siècle nous offrira le spectacle, commence à vraiment ses racines là, à ce moment-là, dans un duc d'Orléans qui gère mal sa fortune, qui provoque ses incohérences de gestion, provoque la fuite de ses intendants, qui sont pour certains de fidèles monarchistes, proches d'Alfred de Gramont, et qui n'en peuvent mais. Et d'autre part, il se réfugie dans les voyages. On a vraiment une sorte de nomadisme évoqué tout au long du journal, avec Alfred de Gramont qui a une mauvaise santé, mais qui est pourtant la madone des gares, parce qu'il passe son temps à voyager, alors que c'est une époque où... Et d'autre part, le duc d'Orléans a une passion qui sont les explorations. Il a fait l'acquisition fort coûteuse d'un yacht qu'il a baptisé la Maroussia, qui est le nom de Marie en hongrois, en hommage à sa femme. Et il parcourt les mers pour des expéditions qui ont pour but la connaissance de la faune, aussi bien celle du pôle Nord que celle des territoires désertiques de l'Afrique, et qui lui vaut de rassembler, d'expédition en expédition, une collection cynégétique très importante.
Et de publier, puisqu'il y a des publications, il y a aussi très jolis ouvrages, oui, de ces expéditions.
Tout à fait, tout à fait. Il s'entoure.
Des photographies d'époque.
Tout à fait. Il s'entoure d'ailleurs d'un très bon peintre animalier qui est Édouard Mérite. Il a des relations suivies avec des explorateurs, notamment pour ses explorations les plus difficiles qui sont évoquées dans le journal. Mais Alfred de Gramont prend bien garde de ne pas l'accompagner. Les deux expéditions très importantes vers le pôle Nord, où il s'entoure d'ailleurs de très grands savants. Et il laissera d'ailleurs une très belle collection cinégétique que sa sœur, la dernière reine de Portugal, qui sera son exécutrice testamentaire, léguera au Jardin des Plantes, au muséum. Oui.
Alors, nous marquons une pause, si vous voulez bien, Eric, et nous nous retrouverons ensuite pour que vous nous précisiez un peu le portrait religieux, entre guillemets, cette fois, de cet homme intéressant et très engagé de ce côté-là également.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous retrouvons Éric Mention-Rigaud qui est venu nous présenter le journal d'Alfred de Gramont, l'ami du prince, orléaniste. Alors vous nous avez brossé un peu le portrait politique, l'engagement de cet homme au service du duc d'Orléans. C'est également un grand chrétien et c'est un chrétien qui est amené à connaître des événements qui sont ceux de l'Église du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il se passe beaucoup de choses à l'époque. Il y a la montée du modernisme, il y a la doctrine sociale de l'Église et il y a les hésitations de l'Église au ralliement. Alors toutes ces choses-là, elles apparaissent dans le journal d'Alfred de Gramont et il est intéressant de voir comment il se positionne aussi.
Alors, grand chrétien, je ne sais pas s'il l'est réellement parce qu'il est quand même extrêmement discret. Il évoque souvent ses lectures, mais celles qu'il évoque, ce sont des lectures historiques. C'est quelqu'un qui est passionné par l'histoire, l'histoire de sa famille, l'histoire de France. C'est quelqu'un qui a un goût de l'archive et du document. Évidemment, il évoque de temps en temps sa fréquentation de l'Église et à l'évidence, c'est quelqu'un qui a une dimension spirituelle. Alors, comme je dirais toute sa caste, il est horrifié par la politique anticléricale militante de la Troisième République sous l'égide de Combes et qui culmine avec la séparation de l'Église et de l'État. Et en cela, je dirais qu'il n'est pas un aristocrate original, puisque, je l'ai montré dans d'autres ouvrages que j'ai écrits, on assiste à la fin du XIXe siècle, lorsque l'aristocratie renonce à une restauration monarchique, ou voit plutôt l'espoir d'une restauration monarchique s'échapper. Elle se replie sur l'ancrage local. Et d'autre part, cette aristocratie, elle s'agenouille au pied de la croix, elle le fait avec d'autant plus d'urgence que l'Église est persécutée à la fin du XIXe siècle. Le denier de Saint-Pierre a été créé pour compenser la perte des États pontificaux et la France envoie beaucoup d'argent à Rome. L'aristocratie française envoie beaucoup d'argent à Rome. Et c'est pour ça que la plus grande partie des titres pontificaux sont donnés à la France. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Et d'autre part, eh bien, sur le terrain, elle aide beaucoup l'Église de France. Alors bien sûr, il est hostile à Léon XIII, qui est le pape du ralliement. Il est plus favorable à Pie X. Et d'autre part, ce qui m'a parfois un peu étonné, il est très sévère à l'égard du catholicisme social, très sévère à l'égard d'Albert Demain. Oui. Albert Demain, qui meurt d'ailleurs peu de temps avant lui, à la fin de l'année 1914, auquel il ne pardonne pas ses prises de position qui ont été des prises de position qu'il considère comme trop favorables à la République. Il reste très étranger au catholicisme social.
Alors, il a des jugements intéressants. On parlait de Lucidi tout à l'heure. Moi, je l'ai trouvé intéressant, notamment lorsqu'il parle de l'abbé Loisy. L'abbé Loisy est condamné. Il est, à ce moment-là, extrêmement isolé. Et on voit, effectivement, Alfred de Gramont évoquer l'affaire Loisy et dire qu'effectivement, l'homme a des thèses originales. En tout cas, il les a lues. Donc, ce qui prouve qu'il a quand même des lectures spirituelles qui sortent des lectures habituelles et qu'il est capable, tout en restant légaliste, pour lui à partir du moment où le prêtre est condamné, la mise à l'index ne se discute pas, mais en tout cas, il aime à se faire un jugement par lui-même. Peut-être que c'est sa formation militaire, sa formation scientifique.
Peut-être aussi un certain anticonformisme qui n'est pas incompatible.
C'est ce qui le rend d'autant plus intéressant, je trouve.
Oui, et qui est certainement aussi à l'origine de l'écriture. Parce que la grosse question que je me suis posée pendant tout ce travail de rédaction, puisque je ne pouvais pas publier les 12 cartons qui étaient beaucoup trop importants. Le livre fait quand même déjà 715 pages. Et je me suis souvent interrogé sur le statut de cette écriture. Alfred de Gramont dit qu'il écrit pour ne pas être lu. En même temps, quand on écrit, c'est toujours avec le désir de sauvegarder quelque chose, de confier à l'écriture quelque chose auquel on veut donner la garantie de la survie, avec certainement ce sentiment qui devient de plus en plus fort après la mort de son fils et dans les dernières années de sa vie où il voit bien qu'il n'y a pas de descendance qui se dessine. Mais en même temps, il y a une grande spontanéité. Les textes n'ont pas été relus par lui. Une grande spontanéité, une grande franchise, un franc-parler, une liberté, un souci des convenances qui s'estompent et qui fait que, justement, il y a chez lui une quête de la vérité, une volonté de faire tomber les masques. Et certainement, comme vous le dites, le réflexe de chercher la vérité, d'où son goût de la lecture. C'est un homme qui n'est pas mondain, qui a beaucoup de visiteurs chez lui, qui a des amis, qui fréquente certes le jockey, mais qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas aller dîner, il le dit à plusieurs reprises. Et donc, il y a de grands moments de solitude, et donc de lecture, et donc d'écriture, qui sont des moments justement de regard, un petit peu en retrait sur cette société qu'il connaît très bien.
Je crois que vous avez raison de souligner que ça n'est pas qu'un journal de compte-rendu, mais bien un journal d'analyse. Et c'est ça qui rend la lecture vraiment intéressante et entre guillemets pédagogique. C'est que ça n'est pas que quelque chose de vu par la serrure, mais vraiment du compte-rendu, de l'analyse, de quelqu'un qui est très libre dans l'écriture, qui n'est pas corseté, qui n'est pas moralisant.
Et qui aime vraiment lire et écrire. Heureusement d'ailleurs, parce que sa fonction auprès du prince, c'était quand même d'écrire.
Et qui est véritablement politique. Je me souviens de ce passage où il essaie d'anticiper ce que sera la politique du Saint-Siège après Pie X. Alors évidemment, il ne peut pas deviner qu'il y aura cet intérêt de Benoît XV, mais il a parfaitement vu dès 1913, dès l'avant-première guerre mondiale, ce que sera la politique du Saint-Siège avec Pie XI. Donc il a vraiment une analyse politique, une capacité à se projeter, et c'est ce qui rend cet homme, effectivement, et la lecture de son journal particulièrement intéressante.
Il a une grande intuition, et tout ça est servi par une, une réelle qualité d'écriture, même si le journal n'a pas fait l'objet d'une écriture très attentive, mais c'est quelqu'un... Il y a beaucoup de pages qui, semble-t-il, ont été écrites du premier jet et qui sont fort bien rédigées. Et en cela, je dirais qu'il s'inscrit dans la tradition d'écriture des Gramont. Corisande de Gramont, que j'évoquais tout à l'heure, qui est la mère du premier duc, a laissé une correspondance aujourd'hui publiée avec Henri IV. Et depuis Saint-Evremond, qui était un ami du premier maréchal, les Gramont sont présents dans toutes les mémoires de l'Ancien Régime. Ils sont partout évoqués. Au XIXe siècle, ils entrent dans l'univers romanesque et théâtral avec Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac et le duc de Guiche, avec La Dame aux Camélias, avec bien sûr Proust. Là, on a vraiment un matériau brut.
Permettez-moi, avant de refermer ce livre avec vous, d'évoquer quelques anecdotes, puis revenons finalement à ce que nous nous disions au début de cet entretien. Cet univers de Proust transparaît à travers des choses politiques et sérieuses. On ne va pas les lire ici, mais il y a des passages fort drôles qui sont consacrés à des personnages secondaires, je dirais, de l'époque, des gens comme Arthur Meyer, comme Isadora Duncan, qui sont extrêmement féroces et extrêmement drôles. Donc il y a cette capacité chez Alfred de Gramont à passer d'un registre à l'autre, et c'est ce qui rend la lecture de ce journal d'Alfred de Gramont véritablement passionnante.
Oui, et puis alors ce souci qu'on trouve d'ailleurs assez fréquemment chez les mémorialistes de saisir une petite anecdote, c'est-à-dire le goût du minuscule, et qui, par l'écriture, par l'analyse, eh bien, devient presque un fait historique, enfin en tout cas quelque chose qui est matière pour l'historien.
Éric Manchon-Rigaud, merci d'être venu nous présenter ce journal inédit d'Alfred de Gramont qui couvre les années 1892-1915. Alfred de Gramont, l'ami du prince, le duc d'Orléans. Et vous avez publié ce journal chez Fayard. Merci à vous.
Merci beaucoup.